des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, je suis vraiment très très excitée de venir à votre rencontre parce que ce ne sont pas un ni deux, mais trois invités que j'ai autour de cette table. Des gens qui sont très concernés par des livres plein les oreilles parce qu'ils en mettent, eux, plein les oreilles, des livres. Effectivement, à un moment donné, en faisant des recherches par Internet, je suis tombée sur cette compagnie, une compagnie qui s'appelle Lire à voix haute. Et je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, Lire à voix haute, il faut que je les accueille chez nous, parce que Lire à voix haute, ma foi, c'est ce que nous faisons ici. Et vous le savez, vous qui profitez gratuitement, je vous le rappelle, via le service québécois du livre adapté par la BANQ à Montréal, de ces livres que 350 bénévoles enregistrent pour vous dans nos bureaux ici même chez Vues et Voix. Je reçois également à cette émission Gérald Cousineau en début de seconde partie. Et puis quoi d'autre? Il y aura la rubrique de la bande-annonce de la semaine prochaine, alors qu'il sera question la semaine prochaine d'un livre d'Anne de Léon que je vais recevoir, et André Vincent qui sera des nôtres pour nous parler d'une biographie de Jacques Parizeau. Nous parlerons d'Anne Frank aujourd'hui, du manuscrit original d'Anne Frank, et puis bien sûr nous finirons l'émission avec quelques nouveautés en rafale. Alors voilà, soyez les bienvenus à l'émission des livres plein les oreilles, c'est Clotilde Seil qui vous accompagne et ses invités. Bonjour vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors j'ai autour de moi Linda Amiot, j'ai Pascal Amiot.
Pourquoi Amiot?
Amiot, ah, vous dites Amiot, hein, oui. Pascal Amiot. Linda Amiot, je me reprends. Linda Amiot, Pascal Parent et Annie Gagnon. Et tous les trois, vous êtes de la compagnie Lire à voix haute. Et vous comprenez bien que quand j'ai vu ça sur Internet et que j'ai vu tout ce que vous faisiez, vous faites de la lecture en public. Donc de lecture d'extraits de livres que vous allez proposer en public, à différents publics. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on les connaisse, il faut que même tous les non-voyants qui nous écoutent, et les voyants bien sûr aussi, mais il faut que ça se sache, parce que c'est une activité fréquente en France, mais ici, je pense que vous êtes pas mal les seuls à faire ça, non? Madame Amiot, Linda.
En fait, juste une petite précision, c'est à voix haute?
Ou à haute
le
voix
nom. À voix haute. Il n'y a pas de lire, c'est à voix haute.
D'accord, exactement, pardon.
Et justement, l'inspiration est venue un petit peu de créer cette entreprise-là, mm-hmm. ce collectif-là, parce qu'on est un organisme sans but lucratif. Parce que, bon, en 2004, quand j'ai sorti mon premier roman...
Parce que vous êtes auteur, je n'avais pas encore eu le temps de le dire, et je vous recevrai d'ailleurs comme auteur, Linda Amiot.
Alors, effectivement, il y a le directeur général du festival Mélimaume, qui se fait à Reims, en France, et qui, c'est un festival de théâtre pour les jeunes publics, mais il y a toujours un volet pour les adultes. Il y a beaucoup de troupes du Québec qui vont à chaque année. C'est d'ailleurs couvert par le journal Le Devoir, mm-hmm. les activités qui se font là. Et le fameux directeur général en question, dont j'oublie le nom, là, excusez, j'ai un blanc, m'était revenu en me disant, m'avait envoyé un courriel en me disant, mm-hmm. je vais au Québec prochainement et j'aimerais avoir votre autorisation pour, dans la prochaine édition, pour que deux comédiens français... Lise Allong, qui est le premier roman que j'ai publié chez Le Méac en 2004.
Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, qui est disponible via le SQLA.
Bon.
Alors, on va le redire tout de suite, parce que vous viendrez nous en parler un petit peu plus tard à une autre émission, mais c'est Allong, donc en deux mots, je vous l'appelle H-A-L-O-N-G, par Madame Linda Amiot, qui est une de mes invitées aujourd'hui. Je referme la parenthèse.
Alors, bon, j'avais effectivement accordé tout de suite mm-hmm. l'autorisation mm-hmm. sans problème, mon éditeur aussi, et je trouvais l'idée intéressante. Il m'avait envoyé un extrait. Finalement, ça n'avait pas été fait par deux comédiennes, mais une comédienne et une présentatrice de France 1, ou je ne sais pas lequel.
France 2, en tout cas,
bon,
oui.
Peu importe. Et je trouvais le résultat très intéressant, très touchant. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, dans le fond, Bon, parce que je suis écrivaine, mais c'est pas le métier des écrivains de lire leurs livres. Il y en a qui le font très bien. Mm-hmm. Il y a des poètes qui rendent leurs textes très bien. Mm-hmm. Il y a des écrivains qui rendent leurs romans très bien. Mais de façon générale, c'est pas leur métier. C'est le métier des comédiens de faire ça, de rendre, d'interpréter.
Oui.
Et je me suis dit, pourquoi ne pas jumeler deux talents, deux arts...
Quelle bonne idée.
Pour faire ça, faire découvrir la littérature autrement.
Et je suis contente que vous parliez d'art. Parce que je dis toujours, très honnêtement, moi ici, je lis aussi et je donne de la formation à certains lecteurs aussi. Puis je leur dis toujours, vous savez, c'est pas parce qu'on sait lire, et là je vais me tourner vers Pascal Breton et Annie Gagnon, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait lire. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, tout à fait.
Tout le monde sait lire. Mais la lecture, dans tout ce qu'elle comporte, au niveau de la respiration, au niveau de la ponctuation, au niveau de l'intention cachée, au niveau du sous-texte et tout, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai même vu des comédiens, moi, qui n'excellaient pas dans la lecture et qui étaient pourtant d'excellents comédiens. Pascal, vous êtes comédien.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Oui, bien, souvent, le travail de l'acteur, ça fait par apprentissage de texte, alors qu'à la lecture, c'est sûr qu'il y a une rythmique, une respiration qui est différente, une ponctuation aussi qui est à respecter beaucoup, qui n'est pas innocente chez l'auteur.
Non.
Quand l'auteur met une virgule, c'est parce qu'il la voulait.
Oui.
Ça nous indique un rythme, ça nous indique une intonation aussi.
Voilà.
Moi, j'ai toujours adoré la lecture, même que, comme comédien de théâtre, j'aime beaucoup l'étape de création où on lit souvent la pièce en public avant de la jouer.
Mm-hmm.
C'est ce qui m'a amené à voix haute aussi. Là.
Est-ce que vous avez l'impression, puisque je vous ai sous la main, si j'ose dire, Pascal Breton, Annie Gagnon aussi d'ailleurs.
Pascal Parent.
Chaque fois, je vous appelle Breton.
Non,
hein?
C'est pas toi.
C'est vrai. Bon, écoutez, il faut que je vous dise que j'ai un peu le cerveau dans le moche malo. Et j'ai beaucoup de Tylenol dans le sang, alors c'est peut-être ce qui me fait un petit peu avoir des problèmes. Je suis tellement désolée. Pardon. Donc, Pascal Parent et Annie Gagnon, est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, que c'est quelque chose qui s'enseigne assez bien, la lecture, notamment au théâtre? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'on parle, de lecture. Bon, oui, il y en a, mais est-ce... En tout cas, je me suis souvent posé la question. Annie? Vous seriez embêtée pour répondre?
Oui, je suis un peu embêtée de répondre à ça. Je pense qu'il y a une part de facilité innée, mais j'imagine que ça se travaille.
Oui. Mais ça, c'est clair, clairement. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose?
Au niveau de l'enseignement, je ne sais pas. J'ai pas tenté de l'enseigner. Moi, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est toujours un intérêt que j'ai eu dans ma vie personnelle. Je lis beaucoup depuis que je suis tout petit. C'est probablement ce qui m'a un peu aussi amené vers le jeu, en tout cas, ça fait partie de... Mais un peu comme Annie disait... Définitivement, l'expérience, ça aide beaucoup.
Ouais.
C'est pour ça aussi qu'à voix haute, on travaille avec beaucoup de pigistes. On essaie d'avoir une palette de pigistes la plus large possible.
Mm-hmm.
Et on se rend compte aussi que ça fait une différence quand on a accumulé une ou deux ou trois représentations de différents romans, de différents styles. Ça aide beaucoup, oui.
Linda Amiot, je vais me retourner à nouveau vers vous parce que, bon, pour l'historique, vous avez... Est-ce que vous êtes lu par les comédiens? Est-ce que vos livres sont lus?
Il y en a une couple, qui ont été lus.
Il a fallu mettre un peu de pression. Étant présidente de l'organisme, il y avait une petite gêne.
Elle trouvait qu'il y avait un petit conflit d'intérêts?
Ben oui, au départ, je ne l'ai pas fait pour me faire lire, mais pour faire découvrir la littérature francophone, québécoise avant tout, puis démontrer qu'il y a... plein d'écrivains que parfois on connaît moins, que c'est intéressant de les lire, qu'il y a beaucoup de... Puis comme... maintenant, j'habite Longueuil, mais à l'époque, j'habitais Joliette, et je trouvais que dans la région de Lanaudière, de façon générale, on connaissait très peu les comédiens, il y en a beaucoup, on connaissait peu les auteurs, et ça a été la base, le point de départ, de dire... Commençons par les auteurs et les comédiens de Lanaudière, et ensuite on pourra. Alors les deux premières années là. Alors il y a eu Donald Allary, un auteur qui a été lu, Jean-Pierre Girard, Louise Tremblay-Desciambre, Qui avait d'autres...
Vous savez que Louise Tremblay, des Siambres, elle a lu elle-même ici un de ses livres assez récemment.
Ah bon,
d'accord. Oui, absolument. Et elle a fait d'ailleurs cette émission-là aussi.
Ah bon,
et ça,
alors,
voilà.
Parce qu'il y en a beaucoup des auteurs, puis bon, voilà. Mais bon, finalement, on s'est étiré, on a ajouté de partout, là, au Québec, évidemment, parce qu'il y a des plumes extraordinaires un peu partout.
Mais oui. Mais pour l'instant, vous êtes très pro-québécois. On reste dans le territoire du Québec.
On a lu quelques autres de la francophonie, Antoine de Saint-Exupéry, Éric-Emmanuel Schmitt, mais ça, pour l'instant, ça ne s'est pas trop présenté.
Okay.
En fait, dans une ambition extraordinaire, on se disait qu'un jour, on pourrait faire des échanges justement avec la France, la Belgique, les autres pays francophones pour que des comédiens français ou belges lisent des œuvres d'auteurs québécois et le contraire, puis qu'on se promène d'un pays à l'autre, mais on n'est pas encore rendu là.
Quelle est votre clientèle cible?
On n'a pas de clientèle cible, en fait. Au départ aussi, il faut peut-être préciser... on ne voulait pas avoir un lieu de spectacle. On voulait présenter nos spectacles un peu partout dans différents lieux culturels. Évidemment, le mariage naturel s'est fait beaucoup avec les bibliothèques.
Oui.
Alors, on présente beaucoup nos spectacles dans les bibliothèques depuis 4-5 ans. Ce n'est pas seulement dans la Lodière, évidemment. On va beaucoup en Montérégie, dans la région de Laval, Laurentides, limitrophe de Montréal. Oui. On a fait quelques spectacles à Montréal, entre autres un au Monument national dans le cadre du Festival Métropolis Bleu. Donc, le fait qu'on n'ait pas de lieu en particulier a fait que je suis complètement en train de perdre mon idée.
Vous êtes des nomades.
Oui, c'est ça,
des nomades. C'est simplement ça, là, que je retiens. Et est-ce que vous avez des contacts? Parce que lorsque vous choisissez un livre, quoi, vous vous réunissez tous ensemble et vous dites... ou alors il y en a un qui arrive en disant oh, « Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, il faut à tout prix qu'on lise ça. » Comment ça se passe?
Un petit peu des deux, je pense.
Un petit peu des deux?
Ouais. Un peu des deux, mais à partir du fait où on se dit à chaque année « Voilà, cette année, notre thème pour choisir les textes, voilà. Ça sera par exemple l'amitié ou les relations familiales ou quelque chose, peu importe. »
OK, d'accord.
Donc,
on
essaie de choisir des textes. Et ça permet aussi de faire des découpages de textes particuliers.
Mais
parce que, évidemment, en un spectacle d'une heure et quart, une heure et vingt, on ne peut pas lire tout le livre.
Mais non, c'est ça. Et comment ça se passe? Est-ce que les auteurs, est-ce que les éditeurs acceptent facilement? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Est-ce que, je sais pas,
oui.
Non?
Oui. Oui, effectivement, les éditeurs acceptent très, très facilement, les auteurs aussi. On donne toujours un droit d'auteur de 100 $ par représentation à l'auteur.
OK.
Ils sont toujours très contents. La première fois qu'on le présente, généralement, ils sont là.
Oui.
Et ce qui donne lieu à un échange avec le public à la fin, avec les comédiens, l'auteur et tout ça.
Et Kim Thuy, entre autres.
Toujours très intéressant.
Kim Thuy, elle faisait des triples saltos arrière quand elle vous a entendu. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, mais elle a fait aussi. Elle est venue à l'émission aussi,
bon,
vous savez. On a eu du monde dans ce petit studio-là, si vous saviez. Alors,
C'est ça, le fait qu'ils embarquent avec bonheur, puis même souvent, les auteurs redécouvrent leurs textes.
J'aurais aimé qu'Anne Hébert puisse vous entendre, et malheureusement, vous me voyez venir,
oui,
Annie Gagnon et Pascal Parent. Anne Hébert, Kamouraska, c'est un extrait que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. J'en suis très fière. Je voudrais, pour les gens qui viennent juste de se joindre à nous, rappeler que je reçois la compagnie, on dit comme ça?
Le collectif à voix haute.
Ouais. Voilà. Donc, le collectif à voix haute. Et je reçois celle qui l'a créé, Linda Amiot, qui est aussi auteure. Et je reçois deux de ces comédiens qu'on va entendre là dans un extrait de Kamouraska d'Anne Hébert. Alors, je laisse la place à Annie Gagnon et Pascal Parent.
Merci.
Kamouraska d'Anne Hébert.
Éléonore et Elisabeth Daunière. Prenez-vous pour époux Jacques-Antoine Tassy?
Oui.
Ton voile de mariée, ta couronne de fleurs d'oranger, ta robe à longue traîne, le gâteau de noces à 3 étages nappé de sucre et de crème fouettée. Les invités se mouchent derrière toi. Tout le bourg de Sorel attend pour te voir passer au bras de ton jeune époux, ce géant blond. Il a des yeux si bleus, des fleurs de lin pleines de larmes. Un peu trop gras, peut-être. La larme trop facile. On dit qu'il boit et qu'il court les filles. C'est le seigneur de Kamouraska. Il a tout juste 21 ans. Et toi, Élisabeth Daunière, tu as 16 ans. Tu as juré d'être heureuse. Tu grimpes dans la voiture, toute la noce plaisante, entoure l'équipage et rit très fort. Tu embrasses de nouveau ta mère, tes tantes et toute la noce. Le marié saisit les rênes, soupire après ce long voyage jusqu'à Kamouraska. Les auberges, les relais. Tante Adélaïde crie quelque chose qui se perd dans le vent.
Nous aurions dû prendre le bateau à vapeur jusqu'à Québec, mais mon mari tient à conduire lui-même sa jeune épouse jusqu'à sa demeure du bas du fleuve, selon un itinéraire bien à lui. L'odeur du foin coupé, le parfum des trèfles, le grisillement des grillons. Passage du plein soleil à l'ombre profonde de la forêt. Je redeviens sensible à outrance. Le centre de ma vie, ce désir. Non, je n'avouerai pas la connivence parfaite qui me lie à cet homme blond assis à mes côtés. Cette voiture folle lancée sur des routes peu sûres, dans le brasier de l'été.
15 jours de voyage, longue route déserte, forêt traversée, petites auberges de village. Parfois, il y a des punaises dans le bois du lit. Toujours, les draps sont rugueux. La chaleur est insupportable. Il pleut à travers la capote de la voiture. Saint-Hyacinthe, Saint-Nicolas, Pointe-Lévis, Saint-Michel, Montmagny, Berthier, Lillet, Saint-Roch-des-Aunais, Saint-Jean-Port-Joli. Le bas du fleuve respiré à plein poumon. Les soirées deviennent de plus en plus fraîches. L'odeur des grèves se lève de plus en plus fort. Sainte-Anne, Rivière-Ouelle, Kamouraska. Élisabeth se serre contre Antoine lorsqu'il la présente à sa mère, debout sur le seuil du manoir, venue accueillir les jeunes époux. Son petit œil marron, rivé sur elle, ses grosses paupières plissées qui ne clignent pas. Sa belle-mère émerge de la pierre calcinée, couleur de poussière, dressée de toute sa filiforme et frétillante petite personne.
« Bonjour, ma fille. Soyez la bienvenue au manoir. »
Les voix, c'est très, très, c'est saisissant. Moi, je trouve ça vraiment saisissant. C'est magnifique. Vous venez d'entendre les voix de Pascal Parent et Annie Gagnon du collectif À voix haute que j'ai invité à cette émission des livres pleins les oreilles. J'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous deux. Annie Gagnon, vous êtes comédienne.
Oui.
De métier, de profession.
Oui, oui, diplômée de Saint-Hyacinthe.
Diplômée de Saint-Hyacinthe.
Voilà. Depuis déjà un petit
Mais c'est une référence, hein. C'est une référence. Oui, oui. Et comment vous avez approché, vous, ou est-ce que vous avez été approchée, ou c'est vous qui avez émis le désir de rentrer dans le collectif à voix haute?
C'est arrivé un peu, justement, dans une transition dans ma vie où je voulais vraiment ramener... M'investir plus activement dans ma région et voir si ça se pouvait de vivre de notre art en région.
En région.
Alors, voilà, ben en même temps, moi, je partais ma compagnie de théâtre. Je me souviens plus trop comment j'ai fait la rencontre de Richard. Au début, je sais que je restais sur la même rue que Richard.
OK.
Et puis, à un moment donné...
Qui était notre premier comptable.
OK.
Notre premier responsable financier.
Quelle est votre compagnie? Quel est le nom de votre compagnie dont vous parliez, que vous avez créé?
Trop Arlequin, Avatar Théâtre. Sur mesure.
OK, d'accord. Et qui est encore
dans la région,
qui est très active dans la région de la Naudière.
Voilà.
Vous, Pascal Parent, votre visage et votre voix ne me sont pas inconnus. Vous non plus, d'ailleurs, Annie, mais j'ai déjà, en tout cas, mais j'arrive plus exactement à fixer où, quoi, comment. Mais comment vous êtes arrivé, vous, Pascal, au collectif à voix haute?
Ben voilà, Linda parlait tantôt de ce désir de faire connaître la littérature québécoise et de travailler aussi avec le bassin d'artistes de la région. C'est un peu comme ça.
Ouais.
Entre acteurs, on se connaît un peu dans notre région et c'est comme ça aussi. Moi, c'est Richard aussi qui m'avait approché pour lire Les émois d'un marchand de café avec José Guindon.
Okay.
Et ça a été pour moi un véritable coup de foudre. J'adore lire. J'adore lire pour moi, mais j'adore lire aussi à voix haute.
Ça
et
s'entend.
C'est comme ça que je me suis impliqué aussi après ça avec le collectif.
Donc, tous les comédiens qui sont, qui font partie du collectif viennent de la région de Joliette.
Bah, non, pas nécessairement. Il y en a plusieurs, parce que tout, un connaît un tel qui connaît un autre tel, ça finit comme ça. Il y en a plusieurs qui sont peut-être originaires de la région de la Naudière, mais qui vivent à Montréal depuis longtemps.
Et le contraire des Lanaudois d'adoption.
Sont
installés.
Ah, je vous remercie pour m'avoir dit des Lanaudois. Je me disais, mais comment on est déjà Fiou, alors là, vous me soulagez d'un grand poids sur les épaules. Et dites-moi, Annie et Pascal, comment travaille-t-on un texte? Vous qui êtes comédien professionnel, un travail qui se lit, une lecture, un livre qui se lit ou un texte qui s'apprend, on ne travaille pas de la même façon. Comment travaillez-vous pour une lecture?
C'est sûr qu'on fait plusieurs lectures
avant.
Idéalement, on lit le roman au complet pour pouvoir vraiment s'imprégner de toute l'œuvre, de toute l'ambiance.
Tous les enjeux.
Tous les enjeux, personnages.
C'est ça. C'est sûr qu'avec À voix haute, le premier travail qui se fait, c'est le travail de découpage du texte. Comme Linda disait, on essaie de trouver une histoire qui peut être cohérente à l'intérieur du roman. Ouais. Et ensuite, on passe à travers le roman pour saisir tous les enjeux. Mmh. Et à peu près, je dirais, à partir de la troisième année d'existence, peut-être on a convenu tous ensemble qu'il était bien d'avoir un peu l'équivalent du metteur en scène, qu'on prendrait quelqu'un qui serait le metteur en lecture, si on veut. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle entre nous. Moi, j'en fais. Je fais des lectures aussi. Mais j'aime bien quand je lis un extrait, quand je dois faire le spectacle, avoir
un œil extérieur.
On dit du metteur en scène qu'il est l'œil extérieur. On aime bien avoir une oreille extérieure.
Bien sûr. Oui, parce que faut pas trop en mettre.
Non,
mais faut pas non plus... Je veux dire, faut pas surjouer, mais remarquez, au théâtre non plus, c'est toujours ce qu'on demande à un comédien, mais c'est d'autant plus vrai en lecture, là. Il faut aussi laisser, je pense, au témoin d'un doute, mais il faut laisser à celui ou celle qui nous écoute de l'espace.
Une part d'imagination, oui, c'est sûr. C'est souvent même, je dirais, le commentaire qu'on reçoit du public, les gens aiment beaucoup. Souvent, on nous a parlé du le retour à la petite enfance, quand papa-maman nous
faisait
des livres et jouait les personnages. Et je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup. On se concentre beaucoup sur des parties dialoguées dans nos découpages, parce que les gens aiment beaucoup cette interprétation-là du personnage. Souvent, quand on lit seul, des fois, on a peut-être... Tu sais, vous parlez de ne pas en mettre trop. Mais en même temps, je pense que les gens prennent ce plaisir-là à voir jusqu'où on peut aller.
Mais elle va où? Alors, elle s'arrête où, cette limite-là? Je ne sais pas, quelqu'un dans colère, par exemple. Vous allez vraiment jouer la colère? Ou alors vous allez la... Elle est là, elle est latente, mais...
je dirais que même... je me rappellerai toujours ce metteur en scène qui nous avait dit, même au théâtre... La tristesse est toujours plus forte quand elle est contenue. La colère aussi est toujours plus forte quand elle est contenue.
Oui.
C'est un peu le même principe aussi, tout à fait.
Je voudrais vous entendre à nouveau, tous les deux, c'est possible. À la fin de l'année dernière, le 100e anniversaire d'Yves Thériault. Et d'ailleurs, vous avez donné un spectacle ou deux sur le sujet. Et vous avez choisi de nous lire un extrait de « La fille laide ». D'Yves Thériault. Je voudrais préciser qu'évidemment, c'est un livre disponible via le SQLA également. Alors, je vous laisse aller.
Oui. La fille laide, d'Yves Thériault.
Les jours qui suivirent furent des jours sombres. Bernadette n'avait rien dit de plus. Elle marchait tête basse dans la maison et vaquait à ses travaux sans lever les yeux sur l'édite. La fille, de son côté, avait les yeux qui regardaient loin devant elle. Et elle marchait à pas longs et durs, et sa lèvre était plissée par l'effort de cette rage qui couvait.
Contre Bernadette? Non. Comme un loup qui rôde dans les bois en grondant sans savoir contre qui il gronde. Un loup solitaire, rejeté par la meute qui chasse seul. Elle vécut des heures et des jours, travaillant sans relâche, mordant dans sa douleur, mordant dans sa rage, retenant les gestes pour ne rien briser.
Une fois, seule dans sa chambre, elle alluma la lampe et se regarda dans le miroir. Quand elle eut fini, elle prit froidement le miroir et le projeta sur le parquet. Le miroir se fracassa et Edith eut un ricanement sauvage.
Le lendemain, elle se coupa les cheveux. Pas en un geste modéré pour que la tête soit embellie et le visage dégagé, mais en quatre coups de ciseaux rageurs. Elle tailla sa tignasse noire et terne, et les cheveux tombèrent de chaque côté d'elle. Une mèche s'accrocha à sa hanche osseuse, et elle la rejeta par terre d'un geste haineux. Le lendemain matin, quand elle se leva,
Elle ne peigna pas les cheveux trop courts et les laissa ainsi, raides.
Le soir, quand Fabien entra et qu'il la vit ainsi devant la table, il la regarda d'un air surpris. Et il regarda les cheveux. Puis, il se remit à manger avec de la tristesse dans le visage. Après le repas, au lieu de monter se coucher, il demande à Edith.
Viendrais-tu avec moi à l'étable, la fille? Il y a là un étai que je peux pas remuer tout seul. Il faudrait, au pôle de la force, à l'autre bout seulement, quelqu'un qui bougerait la chose. Moi, ensuite, je pourrais l'arranger.
J'irai bien, moi. Je suis forte.
C'est à nous de le faire. Vous êtes la patronne. Nous, on est là pour le travail. Viens-tu, la fille Edith?
Et Edith y alla. À l'étable, Fabien n'alluma pas de lampe, ne frotta pas d'allumette.
Je me dis que la lune qui fait briller la clarté par la fenêtre là-bas suffit. Dans quelques minutes, on verra tout dans cet étable-là.
L'été?
Il n'y a pas d'été. Il n'y a pas d'effort à faire. C'était le moyen de te parler. Dans la maison, il y a toujours la Bernadette qui rôde. Alors moi, je peux pas parler. La place est bonne, le travail facile, puisque je suis le maître du sol. Bien le maître. Mieux encore que s'il était à moi. Mais il y a la Bernadette qui rôde. Et tu le sais.
Edith eut un bonheur au cœur. Fabien le savait donc que la Bernadette rôdait. Et il n'allait pas vers elle.
C'est magique, hein? C'est magique. Et le temps file, mes amis. Il nous reste deux petites minutes. Où peut-on vous entendre prochainement dans les semaines ou les mois à venir?
Dans les prochains mois, c'est tranquille pour les mois de janvier, février. Les prochaines lectures, au mois d'avril, il y en a trois. Il y a « Vincent et moi » de Michael Rubeau qui va être présenté au Musée d'art de Joliette.
Oui.
C'est un samedi, c'est pour toute la famille.
D'accord.
Dans ce cas-là, il y aura une lecture avec panel sur l'écriture jeunesse.
Oh, wow! Oui.
À la bibliothèque Marc Favreau.
D'accord.
Au mois d'avril aussi, c'est là. Je,
oui, oui, près du métro Rosemont,
oui,
là,
oui,
c'est à Montréal.
Oui, non, mais j'oublie la date.
D'accord.
Donc, avec des lectures, d'extraits des auteurs qui sont Simon Boulris, Patrick Isabelle, Sylvie-Catherine Devailly et Sylvie Mascotte, qui va animer le panel.
D'accord.
Et il y aura une autre lecture à Saint-Philippe sur la rive sud de Le Jardin d'Amsterdam, qui est mon roman jeunesse primé.
Pour lequel je vais vous recevoir dans quelques semaines, Linda Amiotte, avec grand plaisir. Je voudrais vous remercier. Écoutez, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est collectif à haute voix.
À voix haute.
À voix haute. Bon, moi, je dis toujours, mais en tout cas, à voix haute. Et allez-y sur Internet pour connaître toutes leurs dates. C'est vraiment très facile. Merci beaucoup, Annie Gagnon. Merci, Pascal Parent.
Merci
Linda Amiotte. Et quel plaisir pour moi. Mais c'est encore passé trop vite.
Merci.
Et c'est la seconde partie de l'émission des livres plein les oreilles. Et j'ai la joie de retrouver l'ami Gérald Cousineau. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Oh, le Festival des Belles Voix aujourd'hui.
Oh,
oh cher Gérald. Alors vraiment, je voudrais préciser Gérald, vous faites toujours des chroniques littéraires aussi sur la chaîne AMI, hein?
Oui, j'en ai d'ailleurs fait une hier, ma première de 2016.
Ah, et qui sera peut-être diffusée, mais avant que cette émission-là ne le soit, parce que nous enregistrons...
Cette sera diffusée le 1er février prochain.
Ah, bah alors, c'était une très très bonne chose, parce que nous, on va être diffusés le 20, alors... Allons-y. Alors, ne ratez pas le 1er février la chronique littéraire de Gérald Cousineau sur la chaîne AMI. Dites donc pendant qu'on y est, à quelle heure?
Bonne question. Est-ce qu'il y en a une deuxième?
Oui,
C'est le soir.
D'accord. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, cher Gérald, pour ne arrêter de vous mettre dans l'embarras?
Pardon.
Vous aussi.
Aujourd'hui, je fais un petit voyage en Algérie.
Oui.
Et je vous parle d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, Kamel Daoud. Mmh. Il est jeune, il est né en 1970, c'est un journaliste algérien. Mmh. Il travaille au quotidien d'Oran, donc O-R-A-N. Mmh. Et, paraît-il, il ne craint pas la polémique. Alors, Meursault contre enquête, c'est son premier roman. Alors, je dirais d'abord qu'on ne peut véritablement apprécier ce livre si on n'a pas lu, évidemment, L'étranger.
Voilà, d'Albert Camus. Oui.
Parce que c'est pas vraiment la suite, mais voilà, les deux sont intrinsèquement liés. Oui. Alors, c'est
sans,
quoi ça?
Sans que ce soit jamais dit d'ailleurs, hein,
non.
Réellement.
Non,
il
rien.
Me semble.
Le titre du livre n'est pas cité. Camus n'est jamais cité d'ailleurs non plus. Mais évidemment, il est partout.
Oui, oui, bien
il
sûr.
Il est partout dans le livre de Daoud. Donc, c'est quoi cette histoire?
Alors.
Eh bien, le narrateur, c'est un certain Haroun. Et qui est cet Haroun? Eh bien, c'est le frère de l'Arabe tué de 5 coups de feu un dimanche après-midi sur une plage d'Alger. Par l'homme Meursault.
Et quand vous dites l'arabe, c'est...
L'arabe,
c'est...
il n'est pas nommé. Hein.
Il n'est pas nommé et il est nommé là. Voilà, c'est
voilà,
ça, il est nommé l'arabe.
Voilà, ouais. L'arabe. Et alors, il est tué par un certain Meursault. Et c'est comme ça que c'est raconté dans L'étranger d'Albert Camus. Ben, 70 ans plus tard, Haroun veut redonner vie, veut redonner un nom à son frère. Et on n'a pas que ce frère-là. Ben, il avait un prénom, ben oui, il s'appelait Moussa. Donc, il veut redonner un nom, redonner une histoire, et il se raconte. Il est dans un bar d'Oran, et c'est curieux, parce qu'il boit de l'alcool. On nous dit que c'est un des rares endroits où on peut encore boire de l'alcool. Enfin, c'est dans le roman. Donc, il se raconte à un monsieur qu'il appelle enquêteur, probablement un professeur, un universitaire féru de Camus. Donc, il se raconte, il raconte sa version à lui, sa version des faits. Alors, il remonte très loin, bien sûr, à cette année, 1942, juillet 1942. Alors, il va constamment faire des allers-retours entre l'étranger de Camus et son propre récit. Et ce qui m'a surpris, c'est parfois le ton polémique. Nous sommes quand même en Algérie, là. Bon, vous allez me dire, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est vrai. Mais à un moment donné, le narrateur se défoule littéralement, et là, il parle de la religion. Il va dire, par exemple, nous sommes vendredi, c'est la journée la plus proche de la mort dans mon calendrier. Comme ça ne suffisait pas, il ajoute... C'est l'heure de la prière que je déteste le plus. Et il en rajoute encore, j'ai en horreur les religions. Et il va spécifier toutes les religions.
D'ailleurs, on n'est pas surpris qu'il boive, du coup, parce que bon...
Ben déjà, d'ailleurs, dans le roman, il a une altercation avec un imam. Voilà. Donc, c'est un livre qui a failli me passer sous le nez. Et ça aurait été bien triste, car c'est un très beau livre. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ça, ces rapprochements constants entre l'étranger de Camus et son récit à lui. Par exemple, rappelez-vous l'homme révolté de Camus, où il parlait du suicide, qui était, selon lui, la question numéro un du philosophe.
Oui, oui.
Or, que dit Daoud? Eh bien, le meurtre est la seule bonne question que doit se poser le philosophe. Tout le reste est bavardage. Intriguant, quand même. J'aime bien ce genre de rapprochement.
Mais oui, exactement. Puis d'ailleurs, il dit à un moment donné une phrase que j'ai extraite, et j'espère que je ne vous couperai pas l'herbe sous le pied, mais où il dit « J'avais refroidi tous les corps de l'humanité en tuant un seul. D'ailleurs, d'ailleurs, mon cher ami, le seul verset du Coran qui résonne en moi est bien celui-ci. Si vous tuez une seule âme, c'est comme si vous aviez tué l'humanité entière. »
Oui, c'est bien beau, hein?
Oui.
Un autre rapprochement qu'on peut faire, Clotilde, avec l'étranger de Camus, c'est que Meursault, comme Haroun, d'ailleurs, ont vécu un peu les mêmes choses, une sorte d'absurdité de la vie, l'impossibilité de l'amour, et ils ont tous les deux commis un crime sans objet, un crime gratuit, disons. Parce que Haroun aussi a tué quelqu'un au moment de la guerre d'indépendance, juste à la fin, quand l'Algérie a presque acquis son indépendance, il va tuer un Français.
Ah.
Il va faire disparaître le corps. Et il en parle dans le roman, donc il fait un peu la même chose que Meursault, à qui il reproche pourtant d'avoir tué son frère Moussa.
Et en plus, un Français.
Ben oui.
Mais oui.
Ben, c'était bien sûr l'heure de la vengeance, vous comprenez bien. Donc, il a tué son Français et il revient là-dessus, entre autres choses. Mais il y a tellement de choses dans ce... C'est un très court roman, hein. Oui. 153 pages. D'ailleurs, je souligne qu'on peut l'avoir au SQLA. Mais il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, si vous avez lu L'étranger, vous allez l'apprécier beaucoup davantage. Et d'ailleurs, ça donne le goût de relire. Ça redonne le goût de relire L'étranger, encore une fois.
Je lisais une critique de la presse où on disait Meursault contre enquête est en quelque sorte une réponse qui éclaire le monument autrement. à la fois un hommage, une réappropriation, une critique, une claque, mais certes pas un banal règlement de compte. Alors comme je ne l'ai pas encore lu, ce morceau contre-enquête, pardon de m'appuyer sur des critiques parues dans les journaux, mais êtes-vous d'accord avec ça, Gérald?
Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de tout ça, mais je dirais que c'est en même temps, j'ajouterais un hommage.
Ah oui, hein.
C'est un hommage à Camus aussi, parce que c'est pas pour rien, je pense, si Camus n'a pas nommé l'arabe. C'est que l'arabe était, à ce moment-là, l'indigène des Français.
Oui.
Donc, il n'avait pas droit, le droit au nom à être nommé. Donc, il y a, en même temps, cet hommage à Camus, parce que ça permet à Haroun de faire le point, de raconter encore une fois sa version des faits. Mais on peut effectivement voir plein de choses là-dedans, un hommage, et bien sûr, au bout du compte, un hommage aussi à la parole, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il redonne la parole à Moussa qui ne l'a jamais eue, parce que dans le roman L'étranger, Moussa ne dit pas un mot. Non seulement il n'est pas nommé, mais il ne dit pas une seule parole. Alors là, Haroun lui redonne finalement toute la place.
Ouais,
70 ans plus tard, évidemment.
Et alors, l'alcool ne vient pas altérer la parlure, n'est-ce pas? Il semble que l'écriture, bon, il ne nous reste plus qu'une petite minute, mais il semble aussi que l'écriture de Kamel Daoud soit absolument remarquable.
Très beau. Alors, si ça, c'est son premier roman, j'ai hâte aux autres, hein, parce que c'est vraiment une prose magnifique. Et encore là, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher cette prose de celle de Camus qui était lumineuse dans L'étranger.
Est-ce qu'on sait si Kamel Daoud avait du respect pour Camus?
Ce n'est pas dit dans ce que c'est j'ai trouvé. Il y a bien sûr des Algériens qui n'ont pas aimé que Camus ne nomme pas l'arabe dans L'étranger.
Ah.
Mais bien sûr, ce que Daoud pense, je ne le sais pas. Moi, je me fie à ce que Haroun dit. Bien sûr, Haroun aurait préféré que Moussa soit nommé tel quel. Mais bon.
Bah oui, de la même façon que le Français qui est mort ne sera pas nommé non plus. Quoi.
Oui, il est nommé dans le roman.
Ah, il est nommé.
Oui, bien sûr, il est nommé.
C'est pas une revanche. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas d'une revanche que ce livre que Gérald Cousineau nous présentait aujourd'hui, Meursault contre-enquête, de Kamel Daoud, Kamel K-A-M-E-L, Daoud D-A-O-U-D. Cher Gérald, ce ne fut que plaisir une fois encore.
Ah, tout le plaisir était pour moi.
Et nous nous retrouvons dans quelques semaines avec joie.
Ah, j'espère bien.
Prenez soin de vous, Gérald.
Oui, merci.
Au revoir.
Au revoir, Clotilde.
Je suis tombée il y a quelques semaines, voire quelques mois, sur un livre que j'avais déjà évoqué. Oui, bravo Clotilde. Alors déjà t'évoquer, tiens, on va la faire avec un T, ça va être encore beaucoup plus beau. Que j'avais déjà évoqué donc à cette émission, des livres plein les oreilles. Ça s'appelle « Sans faire d'histoire ». C'est un livre dont la facture aussi, dont le graphisme, dont la présentation est absolument remarquable. Et alors, il s'agit justement d'histoire. On connaît l'histoire avec un grand H du Québec contemporain. Maintenant, découvrons celle qui est juste derrière. Vous savez, l'histoire qu'on connaît moins, celle qui surprend, celle qui fera rire, qui fera réfléchir, c'est du reste ce qu'on nous dit sur la quatrième de couverture. Saviez-vous, par exemple, qu'Elizabeth Taylor a contribué à l'implantation du mariage civil au Québec? Qu'une femme de chambre a aidé à démasquer un véritable espion allemand en Gaspésie? Que la Pologne a accusé le Québec de vol de biens culturels devant l'ONU? Alors, sans faire d'histoire, voilà, ce sont de courtes anecdotes historiques de notre XXe siècle. Aussi invraisemblables qu'elles puissent paraître, elles n'en sont pas moins 100% véridiques, alimentées des souvenirs de certaines personnalités qui ont elles-mêmes contribué à l'histoire. Elles sont toutes rigoureusement fouillées, mais ne se prennent pas au sérieux, ni dans leur ton, ni dans leur présentation. Enfin, un livre d'histoire qui se raconte à la machine à café, un livre d'histoire-histoire, pas plate, pantoute. Et je suis très heureuse de vous dire que Anne de Léan, qui a écrit ce bouquin, sera mon invité la semaine prochaine. Un petit extrait ici, par exemple, on nous présente une affiche de femmes habillées toutes les trois en tailleur très chic, et elles ont dans la main des casseroles, des balais, des journaux. Et je vous rappelle que c'est une affiche. Alors, c'est « Mesdames s'en vont en guerre ». Il y a même un chien avec un nonos aussi dans la gueule, et on sent qu'elles ont, elles ont, elles ont un pas volontaire hein, dans ce dessin-là. D'ailleurs, ça s'appelle « Au pas, ménagère, au pas ». Récupérez, mesdames, récupérez les métaux, les chiffons, les verres, les os, les caoutchoucs, les papiers, tout doit servir. Consultez votre comité local, publié par le service de l'information à la demande de l'Office national de récupération Ottawa, autorisé par etc., etc. Voyez-vous, ça c'était durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral qui incitait les ménagères à contribuer à l'effort de guerre en fouillant dans leurs placards. C'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans cette excellent bouquin que vous allez adorer, notamment vous qui aimez l'histoire. Savez-vous, tiens, que le bouillant syndicaliste et grand orateur Michel Chartrand a beaucoup fait parler de lui du début de sa carrière de militant jusqu'à son décès, mais saviez-vous que ce même vif Michel Chartrand caressait un rêve plutôt étonnant depuis qu'il était enfant? Eh bien, il rêvait d'être moine. Et c'est en 1933 qu'il a concrétisé son aspiration à l'abbaye Notre-Dame-du-Lac, mieux connue sous le nom de la Trappe d'Oka. Hein? Ben voilà tout ce qu'on apprend là. Alors ne ratez pas l'émission la semaine prochaine avec Anne de Léon. La semaine prochaine également, j'aurai le plaisir de retrouver au téléphone cette fois-ci André Vincent qui nous a souvent accompagnés à l'époque d'un livre découvert, mais encore maintenant, donc il revient à l'émission des livres plein les oreilles et nous revient avec non pas une mais trois grosses briques, Jacques Parizeau, la biographie non autorisée de Pierre Duchesne qu'il vient nous présenter. Alors vous imaginez bien que s'il y a trois tomes, c'est parce qu'on présente un portrait très complet de cet ex-premier ministre disparu en 2015, tout le monde s'en souvient. On y va de la petite enfance à la formation académique, à ses premiers pas en politique. Également, on le retrouve un petit peu plus tard lorsqu'il est un combattant de la première ligne. À ce moment-là, Jacques Parizeau est dans les coulisses prestigieuses du pouvoir. Alors on en apprend des choses extraordinaires et surtout on rencontre des gens formidables qui l'ont côtoyé. Et c'est par le biais de ces gens-là que Pierre Duchesne a écrit cette biographie sur Jacques Parizeau. Il a rencontré, entre autres, Madame Marois, évidemment, Lise Payette, enfin bon, autant d'icônes, René Lévesque et d'autres qui ont témoigné, on le sait, au fil du temps, de leurs convictions, de leurs passions et de leurs différentes façons de les faire triompher, aux côtés ou non, de Jacques Parizeau. Et puis, dans le troisième tome, on révèle les conditions réelles, entre autres, de la fondation du Bloc québécois, les enjeux, les jeux de coulisses entourant, entre autres, les accords de Charlottetown et du lac Meech. C'est à ne pas rater. La semaine prochaine, je vous le rappelle, André Vincent nous parle de la biographie non autorisée de Pierre Duchesne sur Jacques Parizeau. Une fois n'est pas coutume, on y va en chanson. Mais vous savez que dans cette émission des livres pleins les oreilles, les chansons ont toujours bien leur place. Voici Anne, ma sœur Anne. C'est sûrement qu'il sera question d'une certaine Anne Frank.
Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir. Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, ma seule cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal, du fond de ton placard. Anne, ma sœur Anne, tu pensais qu'on l'oublierait jamais, mais mauvaise mémoire, elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Crois gamin, meurt d'un clou et toute la panoplie. Elle a pignon sur rue des adeptes impartis. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que j'entends. Anne, ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne, ma sœur Anne, j'aurais tant voulu te dire partir, Alma sera. Tu peux dormir tranquille, elle reviendra plus la vermine. Mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue pour ces anciens années au bout de déjà vu. Beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières. Pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière, comme hier à ma sœur. Si je te disais ce que je vois venir, à ma sœur, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard, à ma sœur.
Toute la famille Chédid réunie autour de Louis Chédid, le père, qui avait composé cette chanson-là dans les années 70, une chanson encore tristement d'actualité, Anne Masseran, si je te disais ce que je vois venir, la nazie nostalgie, etc., etc. Tout cela pour m'amener vers cette nouvelle, des nouvelles et des livres. Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, je tire cela d'un article paru il y a à peu près 2 semaines dans Le Devoir, où il est question du manuscrit d'Anne Frank. En France, le 1er janvier, le maître de conférence Olivier Hertscheid et la députée Isabelle Attard ont comme promis mis en ligne l'intégralité du journal d'Anne Frank en version originale. Okay, donc, vous pouvez retrouver en ce moment en ligne l'intégralité du journal d'Anne Frank en version originale. Jusqu'à preuve du contraire, le journal d'Anne Frank, dans sa version originale en néerlandais, est aujourd'hui dans le domaine public et comme promis, la députée du Calvados, Isabelle Attard, et le maître de conférence et blogueur, Olivier Hertscheid, ont mis en ligne le texte malgré l'avis et les menaces du fonds Anne Frank, bénéficiaire et gestionnaire des droits de l'œuvre. Une œuvre est-elle ou pas dans le domaine public? Là est la question. La réponse n'est jamais simple, puisqu'il n'existe pas de définition positive de ce statut particulier d'une création de l'esprit. Bon, en gros, le domaine public s'entend par défaut et concerne tout ce qui n'est plus soumis à des droits d'auteur patrimoniaux. Et les règles qui régissent ces droits et leur extinction sont nombreuses. Elles sont complexes aussi. Il suffit donc qu'un ayant droit s'appuie sur une lecture particulière de ces textes de loi pour être en mesure de contester le statut de bien commun d'une création. Et là, c'est le cœur même de l'affaire qui entoure le célèbre journal d'Anne Frank. Alors on résume. Le maître de conférence et blogueur, Olivier Hertscheid, apprend début octobre que le fonds Anne Frank, bénéficiaire des droits du journal, conteste l'entrée dans le domaine public de l'œuvre au 1er janvier 2016, 70 ans donc après la mort de la jeune diariste. Le fonds s'appuie sur le fait que la première version publiée en 47 a été retravaillée, coupé surtout, par le père de l'auteur, qui est mort en 1980, ce qui repousserait l'entrée dans le domaine public à 70 ans après la mort de ce dernier, à savoir en 2050. Vous me suivez? Pour la version complète, publiée en 1986, l'institution se réfère à la loi en vigueur à l'époque, à savoir un délai de 50 ans après la date de parution, 2036 donc. Olivier Hertscheid se fonde alors d'un texte qui s'appelle « Cher Anne Frank », dans lequel il s'émeut de ce qu'il considère être un abus manifeste et il entend le combattre. Il écrit ceci. « Anne, très chère Anne, je t'écris cette lettre pour te demander la permission de ne pas attendre 2050. À la fin de ce message, je mettrai en ligne ton journal. En faisant cela, j'accomplirai un acte illégal. Il est probable que ton éditeur ou que ceux qui se disent gestionnaires du fonds qui porte ton nom, il est probable qu'ils m'envoient leurs avocats, me somment de retirer ce texte, me condamnent à payer une amende. » Il met en ligne à la suite de son message les textes des 2 versions du journal d'Anne Frank en français. Un acte qui ne passe pas inaperçu et qui est suivi par de nombreux autres acteurs de la cause des biens communs, Romaine Lubric, Lionel Morel, etc., qui mettent aussi le texte en ligne. Olivier Hertscheid retire les textes un mois plus tard à la suite d'un courrier du livre de poche qui appuie sa demande en se basant sur le droit des traducteurs, mais il confirme qu'il mettra en ligne le texte en version originale le 1er janvier 2016, même promesse du côté d'Isabelle Attard, qui a soutenu cette initiative depuis le début de l'affaire. Ce n'est que quelques jours avant la date fatidique en début de semaine que le fonds Anne Frank se décide à sortir de sa réserve et envoie, par l'intermédiaire de son avocat, des courriers d'intimidation aux deux principaux protagonistes. Peine perdue. La suite de l'affaire se passera probablement devant un juge qui devra statuer sur la validité des arguments du fonds, car ceux du camp d'en face ont le mérite de révéler de l'évidence. Anne Frank est morte il y a 70 ans, en 1945, dans le camp de Bergen-Belsen, et son œuvre appartient aujourd'hui à l'humanité entière. Quelques titres en rafale toujours pour mettre un terme à cette émission des livres pleins les oreilles d'aujourd'hui. D'abord ce titre de Gérard Messadier, M-E-S-S-A-D-I-E, accent grave. J'ai dit accent grave, non, accent aigu, excusez-la. Autopsie de l'atroce 20e siècle. Je trouve que ça fait une bonne suite au journal d'Anne Frank. Autopsie de l'atroce 20e siècle, c'est un titre féroce que ce titre-là. Et d'ailleurs, on lui demande à M. Messadier, au sujet de ce titre féroce-là, en quoi est-ce qu'il l'a trouvé si atroce? Et il répond, Messadier, il fut atroce en ce qu'il fut le théâtre des deux guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité et que leur conséquence fut la mort de quelque 200 millions d'humains, soit près de 10% de la population terrestre d'alors, sans compter les destructions et les ravages. Évidemment, il consacre de nouveaux passages, notamment à Hitler et aux dirigeants nazis, quand je vous dis qu'il y a de la suite dans les idées. On lui demande, mais quelle serait la morale qu'il faudrait tirer de cette étude-là? Il répond, Messadier, l'échec de la culture occidentale basée sur le culte exclusif du darwinisme social et la glorification de la guerre de notre mère, comme osa le dire l'écrivain allemand Ernst Jünger. Alors, historien, à vos plumes, ne manquez pas ce titre-là. Ça s'intitule « Autopsie de l'atroce 20e siècle » de Gérard Messadier. Beaucoup plus léger, « Jeune libraire cherche roman d'amour » de Joanny Maillot-Poisson. C'est un livre québécois, c'est l'histoire d'Ariel, une jeune libraire qui travaille depuis qu'elle est toute petite dans la librairie familiale et elle a une théorie toute particulière sur les hommes qu'elle compare à des romans. Alors elle est dans une relation plus ou moins satisfaisante avec nouvelles littéraires, le genre bref mais intense. Quand arrive à la librairie, roman noir, le genre mystérieux et angoissant, et qu'elle retrace son premier amour, roman d'aventure, le genre qui se passe à l'étranger, plein de rebondissements sur Facebook. Est-ce l'un de ceux-là qui sera son roman d'amour? Je vous le dis, c'est très léger, c'est à lire sur une plage ou quand on est grippé, tiens, par exemple. Je vous disais que la semaine prochaine, nous recevons André Vincent qui va nous parler de Jacques Parizeau. Si la vie de Monique Jérôme Forget vous intéresse, sachez aussi que Brigitte Pilote a sorti il y a quelque temps une biographie qui maintenant est sortie en audio, que vous pouvez retrouver via le SQLA par la BANQ. C'est donc Monique Jérôme Forget de Brigitte Pilote, Madame Jérôme Forget, qui n'est pas du genre à avoir des regrets et pourtant... À 74 ans, elle croit qu'elle aurait dû se lancer en politique plus jeune. Elle pense aussi qu'elle aurait dû viser le sommet pour devenir Premier ministre et surtout pour devenir première ministre, mais elle n'a pas osé car elle était une femme. J'ai adoré faire de la politique, dit-elle, alors j'aurais adoré être Premier ministre et gérer l'ensemble du gouvernement. Celle qui s'est lancée en politique à l'âge vénérable de 58 ans, Madame Jérôme Forget, Monique Jérôme Forget, donc une biographie signée Brigitte Pilote. Rafale d'automne de Soseki Natsume, Natsume. La société civilisée est un champ de bataille où l'on ne voit pas le sang couler. Vous devez vous préparer à faire face, vous devez vous préparer à tomber. Ceux qui restent debout dans la rue de la vie avec pour seul but la réussite sont tous des escrocs. Ça vous donne le ton. Rafale d'Autan occupe une place à part dans l'œuvre de Soseki par la portée subversive de son propos, l'audace de son jugement moral sur son époque, qui est aussi un jugement politique. J'avais quelques critiques de presse ici dans Libération en France. On disait « Rafale d'Autan est constitué pour une part importante de conversations polies, comme s'il fallait qu'une légèreté permanente englobe la violence des sujets traités, comme si c'était la seule manière de les aborder sans que leur cruauté ne détourne le lecteur. » Rafale d'Autan de Natsume Soseki. Soseki, c'est le nom de famille, pardon. S-O-S-E-K-I. Puis je voudrais aussi vous parler de La Malédiction, le tome 1 de Louise Simard. Si vous aimez les grandes envolées, les grandes sagas, il y aura 3 tomes. C'est le premier, Le Hameau des Fourches. Il s'avère qu'une malédiction pèse sur la jeune Charlotte. Nous sommes là à Sherbrooke, parce que la ville de Sherbrooke a son importance. Alors si vous êtes estrien, vous allez adorer particulièrement ce livre. Voilà, La Malédiction 1 de Louise Simard. C'est la que se referme l'émission des livres plein les oreilles. Merci à mes invités, le collectif à voix haute, ainsi que Gérald Cousineau. Merci à vous d'avoir été là. C'était Clotilde Seille, à la semaine prochaine.